Associated Press. Philippe, bonsoir. Alors, vous avez effectué plusieurs déplacements au cours de ces 12 derniers mois en Ukraine. En cet anniversaire douloureux pour les populations de Kiev, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui est différent cette fois?
Alors tout a changé bien sûr pour l'Ukraine. Nos points de vue aussi sur l'Ukraine ont changé entièrement. Et je crois que le point de vue que l'Ukraine a sur elle-même aussi a changé pendant cette dernière année. On est passé d'un pays et d'une capitale, Kiev, qu'on croyait qui allait tomber dans les mains de Vladimir Poutine en peut-être quelques jours ou quelques semaines. Et on pensait peut-être même le voir un jour ici dans les rues de Kiev. C'est peut-être ce que pensait le président russe Poutine lui-même. Eh bien, on est passé de cette image-là potentielle à l'image du président américain Joe Biden ici dans les rues de Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donc un changement énorme pour ce pays, pour l'Ukraine bien sûr aussi pendant ces dernières années. C'est devenu, et c'était déjà un pays très fier, mais la fierté, elle est énorme maintenant ici en Ukraine. Il y a de l'optimisme aussi, l'optimisme qu'on peut gagner une guerre contre les forces russes, mais il y a aussi bien sûr de la nervosité ici dans la capitale parce que avec l'anniversaire qui s'approche maintenant, on a peur qu'il pourrait y avoir une attaque massive de missiles contre la capitale de Kiev, bien que ce soit une ville qui est quand même bien protégée par les systèmes anti-aériens ici à Kiev.
Alors, comment est-ce que les populations justement vivent cette constante alerte et ces sirènes qui se déclenchent presque au quotidien? Les écoles, les supermarchés sont-ils ouverts et comment s'organisent un peu les populations dans tout ça?
Alors, ce qui nous frappe le plus dans la totalité de l'Ukraine, c'est le stoïcisme de cette population. Il y a une certaine normalité dans ce qu'on vit ici tous les jours. Oui, il y a les sirènes d'attaques aériennes potentielles russes presque tous les jours. Il y en a une ce matin, par exemple, mais sans attaque en fin de compte. On en a l'habitude, mais les différences, bien sûr, il faut toujours le dire. Quand on parle de l'Ukraine, il y a des différences énormes entre la capitale, entre ce qu'on vit ici et ce qui se passe dans l'Est, bien sûr. Ici, on n'entend pas les tirs d'artillerie. On les entendait au début de cette guerre, mais maintenant, on ne les entend plus. On ne voit pas les explosions tous les jours, comme on les voit dans l'Est. Et on ne ressent pas la nécessité de se cacher dans les sous-sols, comme on le ressent, bien sûr, dans l'Est et dans cette ligne de front énorme, ici, entre les troupes ukrainiennes et les troupes russes. On a quand même la nécessité, ici, de rester à la maison entre 11h du soir et 5h du matin, il y a un couvre-feu dans tout le territoire ukrainien.
D'accord. Et avant de vous laisser partir, Philippe, que doit-on retenir de cette visite de Joe Biden à Kiev? Qu'est-ce qu'il faut en attendre, surtout du côté du gouvernement ukrainien et des populations?
Alors le gouvernement et la population sont très contents, très fiers avec cette visite du président américain Joe Biden. On est très fiers qu'on ait pu l'organiser. Déjà cette visite assez improbable d'un président américain. Il a montré son soutien ici à Kiev. Il a montré son soutien aussi à l'OTAN et à l'Ukraine pendant son discours à Varsovie. Mais l'Ukraine veut plus de soutien et notamment, bien sûr, toujours plus d'armement. L'Ukraine a besoin de plus de munitions. Elle veut des systèmes de missiles à longue portée très urgemment. Selon le président ukrainien Zelensky, par exemple, on veut aussi des avions de chasse. Il y a toujours ces demandes d'aide militaire et on aimerait bien que les États-Unis fassent encore plus pour l'Ukraine parce qu'on le sait maintenant, cette guerre, elle va durer encore probablement assez longtemps.
Merci beaucoup, Philippe Crowther de l'Associated Press. Alors, on se tourne maintenant du côté de nos invités. Patrick Chevalereau, un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les positions sont toujours tranchées de part et d'autre. Est-ce que cela vous surprend 12 mois après?
Oui, les positions sont tranchées. On pourrait peut-être même dire d'ailleurs qu'elles se sont d'une certaine manière radicalisées. On l'a vu hier avec le discours de Vladimir Poutine dans le grand stade de Moscou qui était vraiment un discours d'appel à la mobilisation décrivant presque une guerre civilisationnelle avec l'Occident. Et d'autre part, de l'autre côté, on a depuis un an un renforcement, on va dire, de l'unité des démocraties, un renforcement du lien transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, et puis également un renforcement de l'Union européenne qui, elle, nous a plutôt positivement surprise en affichant une détermination au travers du train de sanctions qu'elle a prises, de l'aide financière accordée à Kiev, et puis même des missions d'entraînement de l'armée ukrainienne.
Cette détermination que décrivait un peu plus tôt Philippe Crowther à Kiev, elle vous surprend aussi, cette résilience des Ukrainiens?
Oui, alors ça c'est encore... Je dirais que les Ukrainiens nous donnent un petit peu une leçon d'exemplarité de ce qu'est une population qui se lève de manière unanime, hein, qui se lève pour défendre sa terre, pour défendre ses valeurs, son aspiration à la démocratie. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'assez étonnant et étonnant de manière positive. Et ça me fait un petit peu penser, et certains commentateurs l'ont dit au cours de l'année qui s'est écoulée, à la levée en masse que la France a connue après la Révolution française, lorsqu'elle était attaquée aux frontières, où il y a vraiment eu un élan national qui a permis de repousser l'envahisseur. Mais évidemment, quelque chose de très long.
Jean-François Seznec, c'est un peu aussi la lecture que vous en faites. Tout cela, disons, la population ukrainienne, le gouvernement ukrainien qui résiste au nord après. C'est vrai qu'il y a eu le soutien des Occidentaux, mais quelle lecture en faites-vous?
Écoutez, je pense que Patrick a tout à fait raison. C'est assez extraordinaire ce qui se passe, de voir le support de la population pour le régime actuel en Ukraine et la force qu'ils utilisent, la force morale qu'ils ont pour se battre contre les Russes. Mais je pense que ça va être encore beaucoup plus difficile parce que la Russie maintenant pense qu'il faut absolument qu'ils gagnent à n'importe quel prix et qu'ils commencent à se raconter des vieilles histoires de l'invasion de la Russie par la France, de l'invasion avec Napoléon, l'invasion de la Russie par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'ils sont capables de gagner contre n'importe quel problème. Donc c'est assez grave parce que maintenant on est dans une situation où les risques augmentent, le chantage russe sur le nucléaire va s'intensifier, et je pense que ça c'est très grave et personne ne veut perdre en fait. Donc c'est très difficile de trouver un point central où les gens peuvent négocier.
Et le président Biden qui était cette semaine en Ukraine et en Pologne pour rallier, booster cette alliance, pourquoi M. Seznec était-il important pour le président Biden de se rendre dans la région?
Ça c'est très important parce que ça prouve à la population ukrainienne et au reste de la région, parce que ce qui se passe en Pologne, en Lituanie, etc. est très très important, et de montrer que les États-Unis supportent vraiment ces pays-là, et que le président lui-même a un homme de grand courage, parce qu'il faut le faire quand même, d'aller passer 9 heures dans le train en Ukraine avec les risques que ça présente. Donc je pense que c'était très important, et c'était effectivement un changement dans la direction de la guerre, mais pas forcément la bonne chose.
Alors Patrick, la Russie a été mise en difficulté surtout grâce à l'appui des Occidentaux, mais les drones iraniens et l'entrée en action de Wagner ont été d'un apport important pour Moscou, il faut le dire. Maintenant Washington s'inquiète un peu d'un possible appui militaire de la Chine. Quelle lecture faites-vous de tout cela?
Et je crois que la lecture qu'il faut faire de tous ces appuis extérieurs demandés, quémandés par un pays qui se présente comme une grande puissance, qui s'appelle la Russie, deuxième puissance militaire du monde, c'est quand même aussi un aveu de faiblesse. Hein. Wagner, les milices Wagner se sont cassées les dents à Bakhmut. Il continue de se casser les dents à Bakhmout manifestement, avec des dissensions entre Prigozhin, le patron de Wagner, et l'appel de l'armée russe. Les drones iraniens, oui, ont donné des résultats au début, mais il semblerait que ce soit aujourd'hui moins le cas. Mmh. Oui, Moscou se retourne un petit peu vers tout le monde et se trouve dans une situation difficile, c'est indéniable. Alors on verra le fameux plan de paix qu'est censé présenter la Chine, qui se présente comme une puissance neutre dans ce conflit et qui ne l'est pas tout à fait, évidemment, et que les États-Unis ont eu raison de mettre en garde dernièrement au sujet de leur aide militaire possible à venir au bénéfice de la Russie. Non, je crois qu'il y a un aveu de faiblesse de la part de la Russie. Je crois que la Chine ne veut pas aller et n'ira pas à un soutien militaire massif des forces russes. Mais vous savez, on est aussi dans un monde d'incertitude depuis un an. Donc il est difficile de dire les choses se passeront de telle manière ou ne se passeront pas de telle manière. Je crois qu'il faut être humble, il faut être à de tous les signaux faibles et ne pas tirer de conclusions trop hâtives de tel ou tel événement.
D'accord. Alors, Jean-François Znaik, la Chine était jusque-là réservée, même si elle achetait beaucoup de pétrole russe malgré les sanctions. Mais a-t-elle vraiment intérêt à aider militairement la Russie?
Non, bien sûr, mais je pense que le jeu de la Chine, comme un peu était en train de dire Patrick, c'est qu'ils essayent d'obtenir la confiance des Russes et passer à pouvoir les faire bouger un petit peu plus et peut-être de contrôler le nucléaire russe. Ils doivent sans doute dire aux Russes que utiliser une arme nucléaire sera encore plus dangereux pour tout le monde, y compris pour la Chine. Et je pense que la Chine pourrait être effectivement un intermédiaire pour les deux parties, parce que je pense que la Russie ne peut pas continuer sans le support de la Chine, et je pense que la Chine le sait très bien. Le seul problème, c'est que de notre côté à nous, on a une relation de plus en plus difficile avec la Chine aux États-Unis, et ça devient difficile d'essayer d'être influencé par la Chine pour faire une négociation. Donc là, on a un problème, et je ne sais pas comment la Chine va pouvoir utiliser sa force, son influence aux États-Unis pour forcer les États-Unis à aller vers la Russie, alors qu'eux peuvent très facilement influencer la Russie pour venir vers les États-Unis.
Mmh. Alors, on va lire quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore est à N'Djamena au Tchad. Il dit que cette crise ukrainienne est une guerre de grandes puissances occidentales se servant de l'Ukraine comme bouc émissaire, avec comme conséquence des dégâts matériels et humains. Christian Oukana, il est à Bounia en RDC, il nous dit que la Russie de Poutine doit accepter de se retirer et trouver le moyen de dialoguer avec son voisin l'Ukraine. Et puis il y a Damas Moussaou Ndombe à Lubumbashi, toujours en RDC. Lui, il écrit ce qu'on peut retenir, c'est qu'à cause de cette guerre, le sang de paisibles citoyens ukrainiens a coulé pour rien. Une grande partie du monde souffre de faim. Le prix du carburant a augmenté en Afrique et dans d'autres continents. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une très courte pause.
Salut Ginny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est nous.
C'est nous. C'est vous.
De vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités. À Paris, nous avons Patrick Chevalereau, consultant international, spécialiste des questions transatlantiques et de défense européenne. Je signale aussi que vous êtes amiral à la retraite dans l'armée française. Et à Annapolis, dans le Maryland, ici aux États-Unis, Jean-François Seznec, politologue, économiste, directeur de Lafayette Group. Alors, Patrick Chevalereau, pour parler un peu de stratégie et de l'aide militaire aux Ukrainiens. Les Américains vont livrer des chars Abraham et les Européens des Léopards, mais avec une infériorité aérienne et un peu à l'ère des drones, ces chars peuvent-ils faire la différence pour l'issue du conflit, si on parle d'issue militaire?
Je crois que des blindés modernes, supplémentaires, aideront les Ukrainiens à condition qu'ils le soient en quantité suffisante, d'une part, et à condition également que les équipages ukrainiens aient eu le temps de s'entraîner suffisamment pour en faire le meilleur usage. Par ailleurs, des blindés, ça s'insère dans une manœuvre d'ensemble, qui comprend de l'artillerie, qui comprend l'utilisation de l'infanterie, qui comprend de l'information, du renseignement. Donc il faut aussi intégrer ces nouveaux moyens dans le dispositif de bataille ukrainien. Bon, c'est pas forcément une chose simple. Mais je dirais que les Ukrainiens, depuis le début du conflit, nous ont montré déjà leur détermination dont on parlait tout à l'heure, dans la première partie. Mais nous ont aussi montré leur capacité d'adaptation. C'est-à-dire que c'est un pays qui a le dos au mur, c'est un pays qui est agressé et dont les citoyens, les soldats, ceux qui sont appelés sous les armes, font preuve d'une très grande volonté d'apprendre vite sur ces différents matériels. Tout dépendra donc de l'usage qu'ils en feront. On parle d'une offensive ou défensive, soit russe, soit ukrainienne, les semaines qui viennent, ou au printemps, ou à l'été. L'avenir nous le dira. Mais je crois que tous ces matériels sont même extrêmement importants pour l'Ukraine. Et il ne faut surtout pas oublier les munitions, puisque les coups d'artillerie qui sont tirés chaque jour par les deux côtés est assez phénoménal et que les stocks naturellement s'épuisent.
D'accord. Alors, Jean-François Seznec, ici aux États-Unis, certains élus républicains, pas tous, mais en tout cas certains souhaitent une limite dans l'assistance que les États-Unis apportent à l'Ukraine. Et seuls 48% des Américains, selon un récent sondage, continuent d'être en faveur d'un soutien économique et militaire à l'Ukraine, contre 60% il y a 9 mois. Quel impact cela peut avoir sur le soutien de Washington à Kiev?
Écoutez, je pense que un petit peu comme beaucoup d'endroits en Europe, la population américaine n'est pas vraiment, vraiment intéressée par cette guerre. Bon, c'est important pour eux, ils en entendent beaucoup parler, mais pour la vaste majorité des gens, ils ont leurs problèmes de tous les jours et c'est quelque chose qui se passe loin et donc qui coûte un peu d'argent, mais qui n'est pas un énorme problème qui les atteigne personnellement pour le moment. Donc je pense que le président Biden a quand même assez de force et de support, même parmi les républicains, pour continuer la guerre comme il l'entend et pour essayer de forcer les Russes à venir à la table de négociation, ce qui est loin d'être sûr, hein, bien sûr. Peut-être un petit mot pour ajouter ce dont parlait Patrick. Il y a un gros problème sur les tanks, les tanks américains et allemands, Léopard, qui vont aller en Ukraine, c'est que la logistique est énorme. Il va falloir des transports de pétrole, de fuel pour les tanks, parce que c'est très gourmand, les tanks, et ça, c'est assez facile à attaquer par les Russes. Donc, ça demande une infrastructure absolument énorme et un support énorme pour faire faire marcher ces tanks, les faire marcher comme il faut.
Et Patrick Chevalot, pour revenir un peu sur cette question de l'opinion publique, en Europe, en Occident de façon générale, comment un conflit qui tire en longueur peut affecter l'attitude de ces opinions publiques?
Alors c'est vraiment une question centrale, je crois, parce que, comme je le disais, le conflit va durer. Je suis persuadé que le conflit va durer. En tout cas, on est rentré dans un mode de confrontation durable avec, avec la Russie, qui est un pays avec lequel on ne peut pas discuter aujourd'hui. Hein. C'est quand même un pays agresseur, coupable de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Donc on a vraiment un problème sur la durée. Et donc la réaction, l'attitude des opinions publiques occidentales va être extrêmement importante. Alors ce qui est rassurant, je dirais, c'est que depuis un an, cette opinion, un petit peu à la différence de l'opinion américaine, n'a pas faibli dans son soutien à l'Ukraine. Tout le monde a bien conscience que la guerre en Ukraine impacte et va continuer à impacter ce qu'on appelle les politiques publiques, c'est-à-dire la manière dont les gouvernements répartissent leurs priorités et leurs efforts budgétaires. Il est évident que les budgets de défense sont en train d'augmenter, vont augmenter de manière assez significative, avec des capacités de production renforcées dans les pays européens et notamment en France. Hein, il y a eu une annonce hier du ministre de la Défense pour créer une unité de production de manière accélérée. Donc on est vraiment rentré dans une espèce d'économie de guerre. Si vous allez à Bruxelles, à la Commission européenne, dans tous les domaines de la politique européenne, la guerre en Ukraine est là, est présente, partout. Donc ça devient un petit peu le nouveau normal, le new normal de ces prochaines années. Et je crois qu'il faut qu'on vive avec ça, qu'on se prépare très sérieusement à ça. Et il faut bien évidemment de la pédagogie pour continuer à expliquer aux populations de quoi il s'agit.
Alors, on a deux minutes avant de se quitter. J'ai envie justement de vous demander, alors, quelle issue pour le conflit à tous les deux? Peut-être Seznek d'abord.
Mais écoutez, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la seule solution, c'est une négociation rapide avec la Russie et avec l'intervention politique de la Chine pour pousser les deux côtés de l'un vers l'autre. Mais je n'ai pas malheureusement beaucoup d'optimisme pour l'immédiat. Et effectivement, je suis d'accord que le conflit va sans doute durer et très très longtemps, parce que la Russie, économiquement parlant, ne souffre pas tellement, il souffre mais pas énormément, et la direction actuelle est en grande force en Russie, et ils se voient eux comme étant les victimes de la chose, et tant qu'eux se verront comme les victimes de cette agression qu'ils ont faite, ça va être difficile de les faire négocier.
Oui, rapidement Patrick, comment est-ce que vous voyez l'issue du conflit? 30 secondes.
J'aimerais voir cette issue, comme tout le monde, arriver rapidement et de manière positive, qu'elle n'envoie pas un message négatif au reste du monde, en actant le fait qu'une puissance peut agresser son voisin, détruire des villes, massacrer des populations et s'emparer d'une partie de son territoire. Mais je pense qu'il faut être réaliste, on est rentré dans quelque chose qui va durer, je le disais tout à l'heure, quelque chose de confrontationnel, et il faut s'y préparer. Et puis, s'il y a une négociation, et ces négociations sont suitables, ce sera d'en définir les termes.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.